journal avec vous. Bonjour Hélène Roussel.
Bonjour. La fièvre du samedi soir. Sleepy Joe, Joe l'endormi, réveille l'Amérique. Il a fête dans les rues, partout dans le pays, jusqu'au bout de la nuit. C'est autant la victoire de Biden que la défaite de Trump, plus que la joie, le soulagement immense.
I feel great! I feel cleansed! I feel relieved!
Soulagé, Joe Biden, 46e président des États-Unis, 279 grands électeurs, mais deux Amériques face à face, les pro-Trump à l'image de leur président, dans le déni. Ils ne lâchent rien, refusent de reconnaître la défaite, la période de transition. 74 jours jusqu'au 20 janvier, l'investiture sera longue, tendue, pacifique, on peut se poser la question. Donald Trump garde les pleins pouvoirs d'ici là. Avec nos envoyés spéciaux, nous sommes dans le Delaware, à Washington, à Philadelphie. Coup d'œil sur le programme économique de Joe Biden. Et portrait aussi dans ce journal de la première femme vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris. Eric Delvaux, on en parle à 8h20 évidemment.
Évidemment à 8h20 avec Nicole Bacharan, historienne et politologue spécialiste des États-Unis, avec Jean-Marc Four aussi, le directeur de la rédaction internationale de Radio France.
France Inter.
We take care of our own, nous prenons soin des nôtres, une chanson de Bruce Springsteen pour l'entrée sur scène de Joe Biden. Il est autour de 3h30 du matin en France, 20h30 dans le Delaware, 279 grands électeurs, c'est fait. Joe Biden est le 46e président des États-Unis.
Je fais le serment d'être un président qui ne cherchera pas à diviser, mais à rassembler, qui ne voit pas des États républicains ou des États démocrates, mais qui voit seulement les États-Unis d'Amérique. Pour tous ceux d'entre vous qui ont voté pour le président Trump, ce soir, je comprends votre déception. Moi aussi, j'ai connu des défaites politiques. Mais maintenant, donnons-nous à chacun une chance. Il est temps de mettre de côté les attaques verbales. Il est temps de faire retomber la pression. Nous devons nous regarder les uns et les autres à nouveau, nous écouter. Et pour faire des progrès, nous devons arrêter de considérer nos adversaires comme des ennemis. Ils ne sont pas nos ennemis. Ils sont des Américains. Ils sont Américains.
Voici venu le temps de guérir l'Amérique. Discours de victoire donc de Joe Biden cette nuit. Franck Madvon, bonjour.
Bonjour Hélène.
Vous êtes l'un de nos nombreux envoyés spéciaux aux États-Unis en direct de Washington. On l'entend, c'est un discours qui se veut apaisant, rassembleur, réconciliateur même.
Oui, on est loin du carnage américain ou de America First. Ces expressions, rappelez-vous, employées par Donald Trump lors de son discours d'investiture, le 45e président avait alors dressé un tableau sombre des États-Unis. Son successeur, lui, se veut optimiste, tourné vers l'avenir. Joe Biden a redit qu'il voulait être le président de ceux qui ont voté pour lui, mais aussi de ceux qui ne l'ont pas choisi. Voyons-nous, parlons-nous, il est temps de se réconcilier. En creux, Joe Biden, qui n'a jamais cité Donald Trump, tire un bilan sévère des 4 dernières années. Il fait le constat d'une Amérique divisée. Pas question de rendre hommage aux sortants, comme le font généralement les présidents élus. Et pour cause, Donald Trump ne reconnaît même pas sa défaite. Discours de rassemblement, donc c'était attendu. Joe Biden aura des discours plus difficiles sans doute, mais l'Amérique qui a voté pour lui avait envie d'entendre ses paroles d'unité.
Trump ne reconnaît pas sa défaite. Il a tweeté hein, cette nuit, j'ai remporté l'élection. Ses avocats dénoncent toujours fraude et machination. Franck, on entre dans une zone grise en quelque sorte. 74 jours avant de voir Biden dans le bureau ovale à la Maison Blanche. Tout ce temps-là, Donald Trump garde les pleins pouvoirs. Que peut-il se passer ?
Alors, ce sera une transition à nul autre pareil, ça c'est certain. Donald Trump n'a donc pas concédé sa défaite. Alors, on ne sait pas s'il le fera un jour. Il n'est pas certain non plus qu'il rencontre son successeur, comme ce fut le cas à chaque transition aux États-Unis. Depuis des mois, l'équipe Biden, en fait, redoute cette période. Il y a ce qui est inscrit dans la loi, la transition est encadrée, les grands électeurs se retrouveront le 14 décembre, la nouvelle administration est financée avant d'entrer en fonction, et puis il y a tout le reste, et cette année, les inconnus sont multiples. Que décidera Donald Trump avant de passer la main? Son équipe transmettra-t-elle toutes les informations? On n'a pas les réponses à ces questions. Joe Biden et Kamala Harris ont en tout cas promis de commencer le travail au plus tôt, dès demain.
Merci Franck Madvon en direct de Washington. D'ailleurs, comme pour dire tout son mépris pour cette élection, Donald Trump, et ce sera sans doute une image qui va rester, est parti golfer hier après-midi en pleine annonce des résultats. Cette Amérique déchirée, face à face, elle est visible. Les électeurs de Trump suivent leur président, ne lâchent rien, refusent la défaite et se mobilisent. Reportage à Philadelphie, Pennsylvanie, signé Maxime Tellier.
Le contraste est saisissant entre ces Américains qui célèbrent la victoire de Biden et ces militants pro-Trump à quelques mètres de là, une trentaine hein, protégés par des rangées de policiers dans un enclos. Ils brandissent pancartes et drapeaux et la plupart ne portent pas de masque.
Fuck you! Shut up! He's disgusting and he's a pedophile! Get out of my country!
Alors on vous passe les détails de la traduction, mais ce militant relaie notamment les théories complotistes selon lesquelles Biden et les démocrates seraient des pédophiles. Mais au-delà de cela, dans cet enclos, aucun ne reconnaît la victoire du démocrate. Biden n'a pas gagné, il n'y a pas de victoire de Biden et il ne sera jamais mon président.
C'est impossible que Biden ait gagné de façon honnête. Il n'y avait aucun enthousiasme autour de sa campagne. Quand Barack Obama avait gagné en 2008, là c'était évident. Il avait un soutien très large, y compris chez les indépendants et certains républicains, mais pas cette année. Donc c'est un coup d'État coordonné entre les gouverneurs démocrates, les procureurs démocrates, les entreprises de la Big Tech et les grands médias qui veulent empêcher la volonté du peuple d'être connue.
Et ces militants représentent l'une des fractions les plus dures, hein, des pro-Trump, pas à l'image de tous les électeurs du président sortant. Mais tout ce que dit le président, il le croit sans aucun doute.
Voilà, reportage à Philadelphie de Maxime Cellier. On l'entend, on l'a dit, la passation de pouvoir sera plus que tendue d'ici le 20 janvier. Mais avec 279 grands électeurs, pour Joe Biden, pas de place pour le doute. Au bout d'un dépouillement long comme une semaine sans fin, la page Trump va donc se tourner. Dans les rues, partout dans le pays, une foule masquée chante, danse, klaxonne, boit du champagne. L'Amérique est de retour, la démocratie est sauvée. Des slogans aussi forts que cette fin de campagne fut intense. Mais plus que la joie, peut-être le soulagement dans le camp démocrate et parfois même un peu d'inquiétude pour la suite.
J'hésite sur là où nous en sommes en ce moment. Je suis reconnaissante que notre pays puisse se rassembler, mais nous sommes en fait un pays divisé. Nous sommes à moitié-moitié. J'ai entendu quelqu'un dire que nous ne sommes pas que des États rouges ou des États bleus, mais plein d'États violets. Et je pense que pour aller de l'avant, il va falloir que tous nos législateurs, nos politiciens, même les moins importants, les élus locaux, les villes, les États et jusqu'au président, comprennent comment travailler ensemble, mettre de côté tout ce qui les divise et trouve un terrain d'entente. Beaucoup de choses nous divisent, mais beaucoup de choses nous unissent. Et c'est là-dessus qu'on doit se concentrer.
Bridget, une électrice de Biden à Wilmington, Delaware. On a vu aussi des scènes de liesse jusque derrière la frontière avec des migrants dans le nord du Mexique, des sportifs encore en tout genre qui se félicitent à l'image du basketteur LeBron James qui tweet « plus qu'un vote ». Arrêtons-nous à présent sur la feuille de route Biden. On sait que la lutte contre le Covid sera sa priorité numéro un, revenir aussi dans l'accord de Paris, lutter contre le réchauffement climatique, mais quid de sa politique économique, programme plutôt centriste, immense plan de relance pour les transports, les hôpitaux, les facs, un Green New Deal qui fait penser à la politique des années 30, analyse l'économiste Alexis Garati.
Il y a certainement des comparaisons à faire avec le président Roosevelt. Et dans la politique économique de Biden, il planifie une augmentation significative des dépenses de l'État, de l'ordre de 6 500 milliards de dollars à un horizon de 10 ans. Derrière se cache une vraie politique industrielle. C'est son New Green Plan, c'est-à-dire un plan massif d'investissement dans les nouvelles énergies et dans les industries qui seront respectueuses de l'environnement. Le New Green Plan représente un tiers de son programme de dépenses. Donc un candidat centriste qui va défendre l'industrie américaine, mais qui va présenter cette politique sous des motifs de redistribution, de réconciliation avec les principaux partenaires économiques au niveau international. Mais il ne faut pas être naïf. Au bout du compte, il y aura avant tout la priorité donnée à la défense du modèle économique américain. Ça sera toujours America First avec Joe Biden.
L'économiste Alexis Garati avec Delphine Simon. Enfin, parmi les images de cette soirée américaine, on retiendra aussi celle de Kamala Harris, costume tout de blanc, sourire immense. Cette métisse, mère indienne, père jamaïcain, est la première femme vice-présidente de l'histoire des États-Unis. La première, pas la dernière, dit-elle. Kamala Harris chez les militants, en fait, c'est elle la star. Son portrait, Claude Guibal.
Enfin une femme et de couleur.
Dans cette candidature présidentielle, la colistière de Joe Biden aura joué un rôle essentiel. On a tout dit sur elle. Ses origines, jamaïcaine par son père, indienne par sa mère, devenue sénatrice mais aussi procureure générale de Californie, poste où elle s'est fait remarquer notamment pour ses positions très sévères que certains, notamment dans l'électorat noir, lui reprochent. Mais une tornade d'énergie, au charisme impressionnant, régulièrement chaussée de baskets Converse, même dans le plus élégant des tailleurs. Plus à gauche que Joe Biden, elle fait le lien avec l'électorat plus radical, celui de Bernie Sanders, ce qui lui vaut d'être dépeinte comme un suppôt du communisme par Donald Trump et le camp républicain. C'est aussi l'atout féminin et cela conquiert les hommes comme Steven.
Elle est intelligente, empathique et elle sait ce que c'est le rêve américain. Pour l'avoir vécu, j'ai été tellement déçu quand Hillary a perdu en 2016.
Et puis il y a Michael qui arbore fièrement son portrait sur son t-shirt.
Une femme qui puisse devenir dirigeante de ce pays, c'est ce dont on a besoin. Et une femme qui vient de la diversité, j'adore cette idée. Je suis gay et pour moi, c'est important de voir des gens qui ne sont pas dans la norme accéder au pouvoir.
À Wilmington, Claude Guibal, France Inter.
Et en attendant, eh bien, les dirigeants du monde entier félicitent le président élu Joe Biden. Encore ce matin, Benjamin Netanyahou depuis Israël. On notera au passage le silence radio du président brésilien Bolsonaro. Et toutes les réactions sont à retrouver et à lire sur franceinter.fr. Et
évidemment, nous reviendrons en détail sur cette élection américaine à partir de 8h20 dans un instant. D'abord, Hélène, un coup d'œil sur le reste de l'actualité.
Oui, avec donc le Covid, bien sûr. Le Covid et la France qui... c'est d'abord les ravages aux États-Unis. Joe Biden l'a annoncé. Hein, ça sera sa priorité numéro un. Dès demain lundi, il va mettre en place une cellule de crise avec des scientifiques qui vont devoir proposer un plan pour tout le pays d'ici le 20 janvier. En France, le seuil des 40 000 morts a été dépassé hier. 300 victimes en 24 heures. On devrait savoir d'ici le milieu de semaine prochaine si le confinement acte 2 porte ses fruits. La crise qui met à genoux des secteurs entiers. Ce matin, dans une tribune au JDD, 4 fédérations de commerçants demandent l'interdiction fin novembre du Black Friday. Il faut, disent-ils, restreindre les ventes en ligne et rouvrir les commerces non essentiels. Enfin, l'Assemblée nationale a quant à elle adopté hier la prolongation de l'état d'urgence jusqu'au 16 février. Les restrictions se multiplient en Europe, les contestations aussi. Contre les mesures anti-Covid, ils étaient près de 20 000 encore hier soir à Leipzig en Allemagne. Manifestations et affrontements avec la police, plusieurs arrestations. Allez, de l'aventure et l'air du grand large pour terminer et se faire un peu de bien. Emma Sarango, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct des Sables d'Olonne. À quelques heures du départ du Vendée Globe, la course en solitaire autour du monde sans escale, c'est l'heure pour les skippers, les 33 skippers, de dire au revoir.
Oui, après une semaine, voire deux, de confinement total à la maison avec leurs proches pour être sûrs d'être testés négatifs au Covid-19, les skippers doivent désormais dire au revoir, un dernier câlin, un dernier bisou avec les époux, les épouses, les enfants qu'ils reverront, si tout va bien, dans 70 jours minimum. Un moment forcément déchirant pour Kevin Escoffier, par exemple, interviewé à l'instant par Jérôme Valls sur le ponton du Vendée Globe.
Bah oui, forcément, je viens de dire au revoir à ma petite fille de 4 ans, tu vois, donc ça fait partie du jeu, j'en ai fait d'autres des départs, il faut prendre ça comme un départ habituel. Ça fait un petit bout de temps, ça fait 3 semaines qu'on n'a pas fait de... un peu plus de 3 semaines même qu'on n'a pas fait de large, donc ça va forcément piquer un petit peu, surtout avec les conditions météo annoncées, mais il n'y a rien de tel pour se mettre dans le bain, si on ne fait pas de boulettes, donc voilà, il n'y a plus qu'à pas faire de boulettes.
Et une fois ces au revoir passés, il faut se mettre dans la course. Hein. C'est parti, installation sur les bateaux, départ du ponton un par un. Le premier, ce sera dans 5-10 minutes déjà. Ce sera le monocoque Occitanie d'Armel Tripon que l'on vient de voir passer, acclamé par son équipe et cette traversée du Chenal qui, lors de la dernière édition, s'était faite devant 350 000 spectateurs. Mais cette fois, on entendra seulement le bruit des mâts et des mouettes puisqu'un arrêté préfectoral impose le huis clos total dans toute la ville depuis 7h jusqu'à 11h. Impossible de prétexter à aller chercher une baguette pour voir les IMOCA. Et on a déjà vu plusieurs policiers postés le long de la plage ce matin pour faire respecter ce huis clos inédit.
Oui, couvre-feu imposé. Évidemment, c'est une mesure anti-Covid sur les pontons au Sable d'Olonne. Départ du Vendée Globe à 13h, donc tout à l'heure, sans public, on l'a compris. Emma Sarango avec Victoria Asper à la technique au Sable d'Olonne pour France Inter. On suivra évidemment le départ à 13h02 tout à l'heure dans le journal de France Inter.
De France Inter à 13h02. Ouais. Merci, c'était le journal d'Hélène Roussel. Le temps de ce dimanche.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Et les orages qui déclinent dans le sud de Jean-Michel Golinski.
Seuls les Bouches-du-Rhône restent en vigilance orange, pluie, inondation, orage pour quelques heures. Signe de la disparition du temps instable près de la Méditerranée qui intéressera encore ce matin l'axe du Rhône et la Provence. En journée, maintien d'un temps faiblement pluvieux sur les Cévennes, sous un ciel chargé sur le Languedoc et le Roussillon. De la Nouvelle-Aquitaine au Pays de la Loire, après les brouillards, c'est une belle journée qui s'annonce. Sur les autres régions, ciel souvent beaucoup plus variable, avec des pluies sous forme d'ondées de la Bourgogne au Dauphiné et de la Basse-Normandie vers la frontière belge en journée. Les températures matinales sont fraîches près de la frontière allemande, avec 2 degrés à Colmar, 3 à Strasbourg, mais 12 ailleurs, jusqu'à 17 ailleurs, 16 à Biscarrosse et 12 à 14 sur la Marne et du bassin parisien à la Bretagne. Cet après-midi, les maximales vont généralement évoluer entre 17 et 21 degrés du nord vers le sud.